Voici Jacinthe Varelle.
Salut Jacintel.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Je suis content de te voir. T'as de l'air resplendissante aujourd'hui. T'as-tu une belle nouvelle cette semaine, coudon?
Non.
Non? Hey, il y a plein de sujets à aborder avec toi. Puis moi et Jeff, on a eu une idée parce que hier, Jeff a eu un conflit. Un conflit majeur.
L'enfer.
Parce qu'il a dû faire son mâle alpha parce qu'il entendait deux femelles alpha dire que ce que Bernard Drainville faisait avec Christine Fréchette en la critiquant sur son leadership, c'était genré.
Ah! Oh!
Ouais.
Ouais, je me serais chicané aussi.
Antonine a dit oui. Pascal a dit oui. Et Jeff a dit non. Puis ben moi, ce matin, je prends la balle et je dis non, c'était pas genré.
Ouais, moi, dans le fond, j'ai juste c'était pas genré parce qu'il attaque Christine Fréchette sur son immobilisme dans le dossier du troisième lien. Puis c'est vrai.
Ouais.
Donc, à partir de là...
Là, c'est assez, là. On a le droit de critiquer les femmes élues puis de dire... de dénoncer lorsqu'elles font preuve d'incompétence ou lorsqu'elles errent ou lorsqu'elles ont des faiblesses. On a le droit de souligner les faiblesses de femmes politiciennes, tout comme on peut souligner les faiblesses des hommes politiciens. Ouais, ouais. C'est ça, l'égalité homme-femme. C'est pas aller chercher une protection, c'est pas aller chercher des faveurs, c'est pas demander un couvert de protection ou d'indulgence à l'égard des femmes.
Ouais.
C'est ça, l'égalité homme-femme. C'est subir la critique dans l'espace public, lorsqu'on occupe une posture d'influence, lorsqu'on est, on est un personnage public, une personne publique, des fonctions publiques, ben c'est ça l'égalité homme-femme.
Mais je pense qu'on a tout un biais, Jacinthe, autant les hommes que les femmes, sur certains trucs qui peuvent toucher notre masculinité ou notre féminité. Les filles se battent. Moi, je suis un féministe dans l'âme. Je ne suis pas un féministe extrémiste, là, mais je considère la femme comme étant mon égale. J'ai toujours apprécié travailler avec les femmes. Mes meilleures patronnes ont été des femmes dans ma vie. J'en ai eu deux que j'ai adoré. Là, si la patronne écoute aujourd'hui, là, je dis pas si c'est elle ou si c'est pas elle, mais les deux meilleures patronnes que j'ai eues, ça a été des femmes. Est-ce que c'est pro-féministe de dire ça? Non, c'est juste la réalité pour moi.
Ouais.
Moi, les deux meilleures patronnes que j'ai eues, c'était des filles. J'ai eu des bons patrons gars aussi, mais les deux meilleurs. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de misandre, tu sais, qui déteste les hommes comme patron. Fait qu'on a tout notre petit biais à nous. Et de ce que je comprends, du coup, puis je ne veux pas parler pour elle parce qu'elle pourra peut-être vous en reparler la semaine prochaine, mais de ce que je comprends pour Antonine, c'est ben, de la façon dont les femmes sont en politique, ben, ils réfléchissent plus, ils veulent être sûrs et certains de prendre les bonnes décisions. Puis moi, ben, quand on m'a rapporté ces propos parce que je ne l'ai pas entendu live, je me suis dit « ouais, mais attends un peu là ». Les femmes réfléchissent plus, ils veulent prendre les bonnes décisions. On est-tu capable, nous autres aussi, en tant qu'hommes, de réfléchir un peu plus et de prendre les bonnes décisions? Ça, c'était mon billet à moi.
Oui. Ben, j'aurais certainement des bonnes discussions à avoir avec des femmes qui pensent comme ça. J'en ai régulièrement quand je suis dans des débats télévisés sur des plateaux. Mais...
Comment elles te perçoivent, ces femmes-là, quand tu es sur les plateaux de télé?
Elles ont l'impression que je ne fais pas honneur au féminisme. Parce qu'en plus, moi, je dis que je suis fortement féministe.
Ouais.
Je suis fortement féministe. Mais pour moi, l'égalité homme-femme, c'est dans tous les sens. Donc, c'est la reddition de comptes et c'est la capacité à absorber la critique sans toujours se réfugier derrière son sexe pour dire « Ah, ben là, on m'a traité de tarte sur les réseaux sociaux, on m'a traité de conne, c'est parce que je suis une femme, donc les gens sont plus durs avec moi parce que je suis une femme. » Ben non. Regardez les critiques qui sont portées à l'endroit de François Legault depuis un an et il se fait traiter,
de mon oncle.
Ça va même plus. Il y a des commentaires beaucoup plus acerbes que ça.
Traiter Christine Fréchette de ma tante, voir si ça va être perçu
pareil. C'est ça.
Je te pose la question, Jean, parce que tu es une femme, OK? Christine Fréchette qui refuse un troisième débat avec Bernard Drainville. Christine Fréchette qui se cache beaucoup. Là, on le voit derrière l'establishment de la CAQ. Fait pas trop de bruit. Est-ce que, selon toi, Christine Fréchette, à l'heure actuelle, démontre le profil de pouvoir être première ministre? Parce que c'est ça, la course à la CAQ.
Ben ouais.
C'est d'être premier ou première ministre.
Absolument. L'issue de cette course à la chefferie, la personne va être nommée premier ou première ministre.
Christine Fréchette démontre-t-elle qu'elle peut être première ministre à l'heure actuelle?
Ben, je sais pas pourquoi elle refuse de débattre avec Bernard Drainville. Est-ce que c'est pour éviter de semer... la division au sein de son parti, ça pourrait être une raison légitime, mais en même temps, On s'attend à voir de quel bois elle se chauffe. On s'attend à ce qu'elle débatte. Moi, j'aimerais ça voir un débat. J'aimerais ça qu'on puisse relever les failles, les forces de chacun des deux débatteurs, des deux aspirants au poste de premier ministre. Est-ce que c'est bien de le mentionner.
Est-ce que tu y vois une stratégie politique? Ouais. Parce que si j'étais son principal conseiller, je dirais, Mme Fréchette, vous menez actuellement dans les sondages. Vous n'avez pas avantage à en faire 8 des débats. 2, ça va être suffisant. Puis, vous ne perdrez pas nécessairement toute l'attention des gens de la Coalition Avenir Québec qui veulent voter pour vous. 3, 4, 5, elle se met en danger. Puis Bernard Drinville, c'est un vieux de la vieille, là. Il sait où frapper d'un Jarnac, c'est clair. Donc, est-ce que ce serait à son avantage de faire plus de débats? Je pense pas. J'y conseillerais de ne pas en faire plus.
Bien, c'est la technique Kamala Harris.
Exact.
Durant la campagne présidentielle aux États-Unis où elle fuyait les médias, où elle allait dans les médias où c'était très complaisant. Elle n'a pas accordé autant d'entrevues que son adversaire Donald Trump parce que, justement, probablement que son équipe de communication savait qu'elle avait des failles face à un adversaire de taille au niveau du plan communicationnel. Ils ont décidé de la protéger de cet environnement plus difficile des plateaux de débat. C'est la même technique que Mark Carney a utilisée aussi.
Exact.
Mark Carney n'accordait pas beaucoup d'entrevues durant sa campagne. Il avait une belle longueur d'avance il a capitalisé là-dessus.
On oublie des fois, Jacinthe, que dans la politique, il y a énormément de stratégies.
Ouais.
Puis Christine Fréchette, elle est brillante. C'est une femme qui s'exprime bien. Et c'est une rassembleuse. Mais de la voir dans des débats, alors que ça fait pas 10 ans qu'elle est en politique, là, elle connaît pas tous les coups qu'elle peut se faire donner, je trouve que c'est tout à fait prudent. Est-ce que c'est courageux? Je sais pas. Mais c'est tout à fait prudent de dire non, je vais en faire 2 puis ça va être bien en masse.
C'est prudent, mais est-ce qu'on veut un premier ministre ou une première ministre prudente ou on veut de l'aplomb, on veut une colonne vertébrale solide, on veut du guts pour être capable d'aller redresser toutes les choses qu'il y a à redresser.
Tu marques un point là-dessus, parce que si c'était moi, c'est on fonce, on gagne, puis on défonce les murs, puis il a beau dire ce qu'il veut. Moi, j'ai regardé tout son pedigree dans les dernières années, depuis qu'il était journaliste, ensuite il est allé au PQ, les ministères qu'il a occupés. Après ça, ben, quand il est allé à la radio, il a dit des choses, je me souviens de tout ça. Après ça, quand il est allé à la CAQ, je me souviens de toutes ses bévues. Je dirais, hey, on fonce. Mais dans son cas, elle, c'est une nouvelle en politique.
Ouais.
Faut la protéger.
Oui, il faut la protéger, mais est-ce qu'il faut servir... Est-ce que... Ben là, ce qu'on voit, c'est que ses stratèges autour d'elle, donc l'équipe de François Legault, parce qu'elle est toujours dans l'équipe de François Legault. Hein? Le chef de cabinet de François Legault, c'est Martin Koskinen. Martin Koskinen la favorise ouvertement. Donc, l'équipe de stratège de l'establishment du parti, donc la continuité de François Legault, la protège. Est-ce que ça sert l'intérêt des électeurs, des membres de la Coalition Avenir Québec qui vont devoir se prononcer? Moi, je pense pas. J'ai fait des débats politiques en 2022 dans les médias quand j'étais candidate aux élections provinciales et les deux plus adversaires coriaces que j'avais le plus peur d'affronter, qui me rendait le plus fébrile, ça a été Bernard Drinville et Vincent Marissal, que j'ai affronté dans des débats à la télévision avec Mario Dumont. Et à la fois pour Vincent Marissal que pour Bernard Drinville, mais encore plus pour Bernard Drinville, je me disais oui, faire face dans un débat télévisé comme ça, brûle pour point face à lui, j'étais extrêmement nerveuse, mais je me suis dit, quelle occasion de montrer que j'ai des couilles. Quelle occasion de montrer que j'ai du guts, que je suis capable. Quelle occasion de montrer le meilleur de ma personnalité. Donc, j'avais à la fois très peur. Et quand je l'ai affronté dans ce débat-là, bien, ça a été magique parce que lui-même s'est aussi révélé son petit côté un peu paternaliste. Je ne veux pas être trop péjoratif, mais le côté paternaliste...
Allais-tu dire mon oncle?
Ben oui, j'allais un peu dire ça.
J'ai honte!
Non, mais sa façon...
Il n'a pas peur de le dire. Lambert Drinville le dit sur nos ondes que son père, comme François Legault,
il faisait vieux mon oncle.
Bon, fait que tu peux le dire.
Parfait. Ben, son attitude à l'endroit d'une candidate féminine, je dirais ça, là, tu sais. Le côté, tu sais, t'es une femme, t'es plus jeune que moi, et ça ressortait à l'écran.
Ouais.
Et c'était fabuleux parce que je me suis dit, j'ai même pas besoin de l'attaquer. Lui-même, là, il y a quelque chose qu'on est capable de percevoir.
Ouais.
Alors, ça peut servir aussi un débat face à un adversaire coriace.
C'est vrai. Sam Ahmad, qui était en entrevue ici, mentionnait souvent que les autres personnes qui se présentaient à la mairie de Québec manquaient beaucoup d'expérience. Et moi, j'avais beaucoup d'expérience. Je connais l'expérience. Je suis né avec l'expérience. Mon 3e nom de famille, c'est expérience. Puis, j'ai l'impression que ça ne l'a pas aidé.
Ben oui. Absolument, non, c'est ça. Donc, moi, je pense que ça vaudrait la peine que Christine Fréchette y aille, puis qu'on puisse aussi mesurer à quel point ceux qui croient vraiment fort en elle, puis qui disent elle est brillante, puis tout ça, ben ils vont pouvoir confirmer ou infirmer cette perception. Et ceux qui, comme moi, pensent que c'est une Pierre Fitzgibbon et hybride Pierre Fitzgibbon et François Legault là ensemble, là, en puissance intégrée. Ben, ça me permettrait aussi de valider si ma perception, elle est erronée ou elle est valide.
Parfait. Prochain sujet, je pense que tout le monde nous a demandé ce matin de te poser cette question-là. Est-ce que tu as vu la vidéo de Donald Trump où on voit deux singes et la tête des singes a été remplacée par Barack Obama et sa femme? Que vois-tu dans cette stratégie de Donald Trump d'attaquer les Obama, si on le savait qu'il ne s'aimait pas ces gens-là, mais avec quelque chose qu'on essaie de lutter depuis des années, là, tu sais, le racisme aux États-Unis, on essaie d'enlever ça. C'est épouvantable. C'est pas digne de l'homme le plus puissant de la planète, le représentant de la liberté sur Terre, là.
Non, c'est une vidéo qui dure environ une minute dans laquelle ça commence de façon très, très style documentaire, dans laquelle il y a un narrateur qui mentionne des irrégularités dans le système de votation, de vote par correspondance aux États-Unis.
Veux-tu qu'on l'écoute ensemble?
Ben oui.
Allons-y. Ah, j'ai pas la vidéo complète.
Ah, c'est ça.
Fait que j'ai juste le « oh oui, oh oui, oh oui, oh
oui ». T'as les deux dernières secondes de cette vidéo.
Exact. Donc, dis-nous ce qu'on voit.
Où il semble avoir une espèce soit de montage ou c'est une vidéo qui arrive dans le feed. Tu sais, quand on enregistre un feed ou quand on enregistre une vidéo et que le suivant embarque tout de suite, ça semble être le suivant qui embarque tout de suite, mais on n'a pas coupé avant que le vidéo suivant embarque. C'est... Parce que moi, je vais toujours voir les originaux là, quand il arrive des scandales comme ça. Et ça semble être ça. Ça semble être une vidéo tirée d'un documentaire quelconque où il y a un narrateur. C'est très, très sérieux. Il n'y a pas de dessin animé là. Mais à la toute fin, whoop, il y a une nouvelle vidéo qui embarque avec même l'inscription là, du créateur de cette vidéo-là.
Mais c'est intentionnel, la part de Donald G. Trump, de mettre Barack Obama et Michelle Obama en singe.
C'est pas lui qui a fait cette vidéo-là, mais effectivement, il a approuvé ou il a publié sur son réseau social cette vidéo-là dans laquelle les deux dernières secondes contiennent ces images-là avec ce son-là.
Y a-t-il un croyau qui a passé?
Ben,
De jugement.
De jugement,
manque de classe,
de
envers
rigueur,
son
de
staff,
classe, absolument.
Envers les Américains, envers les soldats noirs qui se battent pour défendre ce pays-là, qui vont se faire tuer parce que lui prend des décisions.
Attention, par contre... J'approuve absolument pas là, ce choix-là. Si j'avais été avec lui, j'aurais dit, voyons, coupe ça deux secondes avant.
Un peu, oui.
Tu vois-tu, il y a une vidéo qui embarque, là, puis c'est inapproprié. Coupe-moi ça. Donc, ça manque de jugement, ça manque de classe, ça ne se fait pas. C'est inexcusable. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Là, je peux trouver tous les synonymes. Cela étant dit, c'est une critique ou c'est une insulte à Michelle Obama et Barack Obama, où on voit les deux personnes. Là,
moi, je ne perçois pas ça comme ça.
Ça pourrait être Joe Biden aussi.
Ouais.
Ça pourrait être... Parce que cette vidéo-là, là, j'ai cherché l'origine de cette vidéo aussi, de bande dessinée là, ou de montage de têtes de politiciens sur des graphiques d'animaux. Et c'est un créateur de contenu là, qui s'est amusé à faire le roi de la jungle, donc naturellement la tête de Donald Trump est sur un lion. Et il se promène le lion dans une jungle. Là. C'est un créateur qui a fait ça. Et là-dedans, il y a plein de politiciens avec des corps d'animaux et des têtes de politiciens, dont Barack Obama et Michelle Obama. Donc, toute cette vidéo-là, elle est affreuse. Elle est... elle a été faite par un créateur de contenu. Elle est affreuse. Est-ce que c'est une critique à l'égard de toutes les personnes noires ou c'est une critique de Barack Obama et de Michelle Obama? Là, c'est à chacun de tirer ses propres conclusions.
D'une
manière ou d'une autre, c'est inacceptable.
Moi, là, j'ai l'intelligence à peu près de la moyenne des ours. Puis le vendredi soir avec une bière, ça descend un peu. Mais... je suis le président des États-Unis, je mets une vidéo dans laquelle c'est expliqué que je me suis fait avoir aux dernières élections contre Biden, patati et patata, puis à la fin, je vois qu'il y a Barack Obama puis Michelle Obama en gorille ou en singe, appelle-le comme tu veux, je crois que c'est pas le même truc, mais c'est clair que je me dis ils vont faire un lien automatique avec les Noirs. Ouais. Je peux pas faire ça. Ça n'a pas de Christy de bon sens.
Absolument.
Puis je suis dans la moyenne des ours avec le QI que j'ai. Là. Ouais.
Sûrement un peu moins.
Hey, toi, mon collègue préféré. Mais t'imagines-tu, lui, à quel point ça n'a pas connecté au deuxième étage en se disant que ça va être quoi l'impact de ça, là?
Non, absolument. De toute façon, c'est un ancien ancien président aussi, là, peu importe la couleur de sa peau, de se moquer d'un ancien président.
Il y a la fonction présidentielle là, qu'il faut préserver, justement. Ouais. Puis, tu sais, dans l'histoire, malheureusement, du racisme, bien, les personnes de couleur ont été souvent associées au singe. Donc, oui, c'est à caractère racial très fort, là, cette image-là.
Ça met un peu la Maison-Blanche dans l'embarras, on va se le dire.
Ben ouais.
Max, rappelle-moi le positionnement de Québec solidaire et de Ruba Gazal là, en ce qui a trait aux droits des femmes envers la liberté de religion.
C'est une motion qui a été votée hier du côté de l'Assemblée nationale qui va comme suit, que l'Assemblée nationale soutienne qu'en cas de conflit entre l'exercice du droit à l'égalité homme-femme et l'exercice de la liberté de religion, le premier, donc l'égalité homme-femme, doit primer, doit l'emporter sur la liberté de religion. À l'Assemblée nationale, tout le monde a voté en faveur de cette motion-là, mais pas les élus de Québec solidaire. Et Ruba Gazal, par rapport à ça, est sorti par la suite en mentionnant qu'il était tanné que la CAQ instrumentalise les femmes. Puis c'est un peu comme ça qu'on explique qu'on n'a pas voulu encourager la CAQ dans l'instrumentalisation. En tout cas, j'ai de la misère à comprendre, moi aussi. Là.
Est-ce que c'est la logique de Ruba Gazal qui parle ou c'est ses convictions?
Ouais. Ben, c'est la question à se poser parce que il me semble qu'il y a un consensus général au Québec. Ça serait intéressant de sonder les gens, mais est-ce que l'égalité homme-femme a primauté sur la liberté de religion.
Mais ça devrait être ça, puis ça devrait être bien expliqué à quiconque s'en vient ici en sol canadien. Ici, c'est homme, femme, l'égalité qui compte. Mm. Oui, mais moi, non, c'est nous, puis tu vas t'en venir avec nous. Tu veux embarquer dans le système, t'embarques dans le système, tu vas respecter ce qu'on demande. Tu sais, en commission, ce qu'on a vu, c'est une avocate qui a mentionné ça, c'est que dans sa recherche, elle a vu qu'à la SAAC, si un homme ne voulait pas se faire servir par une femme, pour quelconque raison, mais on se doute de la raison, c'est à la SAAC de s'ajuster et de présenter un homme à cet homme-là pour que l'homme puisse avoir le service. Moi, ça, là, Jacinthe, ici, chez nous, au Canada, je veux pas ça. Là.
Ben oui. Non, absolument. Et c'est dans cet esprit-là que cette motion a été présentée. Là. Ça vient de faire les manchettes. Ça vient de susciter énormément de discussions au Québec. Les gens, c'est pas nouveau, cette pratique-là, là, qu'à la SAAC, on puisse demander de se faire servir par un homme.
C'est dans le temps des accommodements raisonnables qu'on appelait ça.
Mais ça fait l'objet de l'actualité cette semaine. Et c'est en voulant rappeler l'importance de l'égalité homme-femme que cette motion a été déposée. Alors, je vois pas d'instrumentalisation et je dirais... Si on changeait le mot « femme » par « autochtone » ou par « Première Nation » et qu'on disait que l'Assemblée nationale tient à rappeler l'égalité entre les Premières Nations et les non-autochtones.
Ceux qui ont volé le territoire. Ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là, Ruba Gazal dirait qu'il y a eu instrumentalisation des Autochtones?
Du tout.
Hein?
Mais QS qu'on se rend compte, je trouve, et ça a commencé avec la grève à la STM, c'est que c'est un parti qui a émané du courant féministe. Puis qui était là pour protéger les gens défavorisés de la société.
Ouais.
Là, présentement, il représente les syndicats puis les extrémistes religieux.
Parce qu'ils sont rendus tellement loin dans l'extrême qu'ils savent plus qui défendre.
Exactement.
Face à qui. On dirait qu'ils sont mêlés
eux-mêmes.
Donc,
par rapport aux personnes défavorisées, ils ont défendu les syndicats. Et là, par rapport aux femmes, ils défendent les extrémistes religieux.
En fait, on sent qu'ils ont changé un peu la trajectoire des idéologies de leur parti.
Vraiment.
C'est vraiment ce que vous décrivez là. Ils semblent être beaucoup plus alignés avec M. Mélenchon en France. C'est pas pour rien qu'on a vu Ruba Gazal et
bon
M. Mélenchon. Les politiques commencent à s'arrimer vraiment énormément. Donc, j'ai l'impression qu'on a justement une instrumentalisation d'une autre partie de la population à des fins électorales chez Québec solidaire.
Mais si t'étais conseillère politique pour Québec solidaire, qui score à peu près à 7% dans les sondages, là, 7,5% de ce qu'on comprend, tu leur dirais quoi? Parce que plus ils s'éloignent du centre, moins il va y avoir de monde qui vont les suivre. Là. Puis moins ils vont avoir d'impact dans la société. Ils risquent de disparaître aux prochaines élections.
si tu veux gagner des votes, 50 % de la population sont des femmes, alors, est composée de femmes. Alors, colle-toi aux femmes plutôt que de te coller sur un groupe minoritaire qui et va rester minoritaire au Québec compte tenu de nos aspirations à protéger notre langue, notre culture. Et...
Moi, c'est aussi de sortir puis de mêler les affaires. Là, Bogazal qui sort en disant « On vote contre parce que c'est d'instrumentaliser. » Hey, on s'en fout. Même si c'était ça, là, le principe de homme-femme devant religion... Même si c'est pas, même si la CAQ le fait avec un but politique, on s'en balance-tu? C'est pas la CAQ qui a l'air fou en ce moment, là, c'est Québec solidaire. Puis là, en plus, dans sa vidéo, là, elle plug le lien pour signer la pétition pour le retrait de l'article 29 sur l'avortement. Elle mêle tout!
Ouais. Okay. Mais là-dessus, elle a un bon point.
Oui, là-dessus, oui. Mais de le mêler à l'autre affaire, c'est que tu vas perdre tout le monde.
On est à majorité pro-choix au Canada. Y a des gens qui sont anti-avortement. Si tu mets ça dans la réglementation, si tu mets ça dans la loi, puis Simon Jolin Barrette est avocat, là, c'est clair que tu peux te faire challenger. Puis là, y a des femmes qui risquent de perdre ce droit-là. T'sais.
Mais c'est de la tragédie.
Non. Les femmes risquent pas de perdre ce droit-là. Arrêtez.
Ça peut être challengé en cours, Jacinthe.
Ça, c'est la rhétorique des gens qui ne souhaitent pas inscrire ça dans la Constitution québécoise.
C'est surtout des éminents avocats là, qui mentionnent que si tu le mets là-dedans, tu vas pouvoir le challenger.
Mm-hmm. Mais attention, l'avortement relève du Code criminel canadien. Mm-hmm. Donc, peu importe ce qu'on met dans la loi québécoise, la loi canadienne a préséance jusqu'à ce qu'on devienne indépendant et souverain.
Exactement. Okay?
Donc, tant qu'on n'est pas souverain et indépendant, l'avortement, elle est bien encadrée, elle est bien protégée, le droit à l'avortement est bien protégé par le Code criminel canadien et par aussi la jurisprudence. Et la jurisprudence reste. Donc, en plus du fait qu'on mélange deux juridictions, la juridiction provinciale et fédérale, ou parce qu'on inclut ça dans une constitution québécoise, on a l'impression qu'on va être capable plus tard de le tasser. On oublie qu'on est sous égide fédérale.
Mais au 28e référendum, là, mais Max, il espère que ça sera au prochain, mais au 28e référendum, ça passe. Là. Mm-hmm. Ils sont fourrés.
La jurisprudence s'applique encore. La jurisprudence continue de s'appliquer. Là, le droit est quand même fondé sur, l'application de la loi.
Mais quand Harper a décidé de durcir les sentences là, pour les criminels, les jurisprudences qu'il y avait eues avant, elles disparaissaient.
Oui.
Parce qu'on voulait durcir les sentences. Donc, ça s'appliquerait dans le cas du 28e référendum où là, le oui passera, Max, ne t'inquiète pas. Par contre, tu seras peut-être plus là.
Ouais, ça se peut, je ne serai plus là.
Mais il faut penser aux générations à venir aussi. Mais moi, là-dessus, pour ce qui est de Ruba Gazal, sur le point que Simon-Jolin Barrette mette ça directement dans la nouvelle loi, ça m'agace un peu parce que j'ai entendu des éminents avocats dire « Si vous mettez ça là, ça se peut que ça soit challengé par les anti-avortements. » Mais je respecte quand même ton opinion. L'autre point, c'est Sol Zanetti qui a tweeté ou qui a blue skyé. Je pense qu'on peut dire ça.
Fait que personne ne l'a vu, là. C'est ça la bonne nouvelle.
Sol Zanetti qui trouve que de forcer un retour en présentiel pour ce qui est de nos fonctionnaires, c'est de gouverner par nostalgie plutôt que par intelligence. Il est plus que temps de reconnaître le droit au télétravail. Puis là encore, il y a une nouvelle pétition qui est organisée par Québec solidaire. Est-ce que l'employeur a un droit de regard à savoir s'il veut ou pas faire travailler ses employés en télétravail?
Je suis stupéfaite d'entendre le droit au télétravail. C'est un droit ou c'est un privilège?
Ben, je pense que c'est un privilège. Moi, je pense que c'est un privilège, Jeff. C'est un privilège.
C'est un privilège de télétravail.
Un privilège qui est arrivé dans une situation exceptionnelle où on pouvait plus sortir de chez
nous.
Très
bon point.
Alors, on peut sortir de chez nous, fait qu'on peut toujours ramener le monde au travail.
Absolument. Là, qu'on parle de droit de télétravail, on y va fort, là. C'est un privilège et c'est un droit de regard de l'employeur qui a le droit de retirer ou de moduler ce privilège en fonction de ses objectifs. Et on sait qu'à la fonction publique, il y a un effort qui est requis. On leur demande déjà de resserrer la vigilance sur les dépenses de l'État parce que ce sont nous contribuables qui payons à travers nos taxes et nos impôts pour toutes les activités de services gouvernementaux. Alors si on demande une rigueur budgétaire, c'est normal aussi qu'on demande une rigueur au niveau de la prestation du travail, au niveau de la productivité. Et la productivité, ben oui, il y a des façons de le mesurer à distance, mais il y a aussi un encadrement supplémentaire qui peut être fait lorsque les employés sont en présentiel. Alors, moi, c'est sûr que j'adore cette idée que maintenant, c'est commun, c'est fréquent, qu'on puisse faire du télétravail, qu'on puisse aborder ça dans le cadre d'une entrevue d'embauche. Est-ce que je pourrais faire du télétravail, cher employeur éventuel? C'est magnifique, je ne suis pas contre le télétravail. Je ne suis pas de celles qui disent qu'il faut abolir ça à tout prix, mais que l'employeur ait la prérogative de l'accorder, de le retirer, de le moduler en fonction des objectifs à atteindre. Franchement, c'est la base, là.
Le seul argumentaire que j'agite de la part des partis syndicaux et également des employés de l'État qui me parlent du retour au travail, c'est le fait que il y en a qui vont être au bureau pour faire des rencontres Teams toute la journée parce que c'est pas tout le monde qui est au bureau en même temps. Donc ça, le gouvernement l'échappe.
C'est là que je veux poser la question à Jean-Saint-Étienne Varel, qui est avec nous comme à chaque vendredi. Est-ce que le gouvernement a un devoir de faire vivre certains quartiers?
Ah, donc en ramenant les gens au bureau pour que les cafés, les restaurants autour fonctionnent?
Pour que tout ça fonctionne, pour que l'économie puisse continuer tout le temps?
Je pense pas. Je pense pas que ça devrait être l'objectif du rappel au bureau des fonctionnaires. Hey, franchement, on a un problème avec notre économie si ça repose là-dessus, puis si on a besoin de l'intervention du gouvernement pour ça.
Mais je t'annonce que si le gouvernement décide que c'est terminé en ville, là, les bureaux de fonctionnaires, il y a une couple de restaurants qui vont fermer.
Ben oui. Mais en même temps, qu'est-ce que ça a fait dans Saint-Roch? Là, il y a d'autres problèmes, mais ça en est un. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ah, mais c'est gênant de vivre dans une société où on se dit on ramène les gens au bureau parce qu'il faut faire vivre les commerces.
C'est gênant.
Bienvenue
à Québec, ville de fonctionnaires.
Est-ce que ça se peut que ça fasse partie des discussions en disant, attends un peu, il faut que les gens dépensent pour de l'essence, il faut que les gens achètent des cartes pour le transport en commun, il faut que les gens aient mangé, il faut qu'ils aient dépensé dans des magasins. Ça se peut-tu que ça fasse partie du thinking du gouvernement pour les ramener au bureau? Parce que comme Jeff dit, tu sais, le fonctionnaire va aller au bureau pour faire du Teams, donc faire du travail en vidéo avec des jeunes de Montréal, alors qu'il aurait pu le faire de chez lui. Mais il n'a pas dépensé une scène, c'est le fait de chez lui.
Oui, effectivement. Mais ça peut faire partie, mais j'espère que ça ne fait pas partie de la réflexion. Ben oui, là, tu sais, déniaisez-vous pour attirer du tourisme. Le tourisme hivernal est bien développé, mais mettez plus encore d'accent là-dessus sur le tourisme hivernal. Arrangez-vous pour que notre région vive. Parlez du fameux projet TGV qu'on veut développer pour l'instant, ça a été promis entre Montréal et Ottawa.
Ouais.
Pourquoi ça ne vient pas à Québec dans une phase 1? Parler de ça pour faire venir des gens de Montréal et de la grande région de Montréal et d'Ottawa vers Québec le plus vite possible, plutôt que de nous promettre un éventuel phase 2 en 2045 quand on va tout être en CHSLD, en train d'avoir un bain par semaine.
Parce que quand j'ai parlé avec, quand j'ai parlé avec Christian Daigle, le président du syndicat de la fonction publique québécoise, lui, je lui ai posé cette question-là. Ben, est-ce que vous croyez qu'on le fait pour l'économie de quartier, de centre-ville? Ben, c'est ça qu'il nous le dit. Là, à partir de là, je ne l'ai pas vraiment cru. Puis il dit, on va s'asseoir avec le gouvernement puis on va trouver un arrangement. Bon, j'ai pas cru M. Daigle là-dessus parce que son combat est trop intense contre le fait de revenir au travail. Mais comme j'ai dit, je le comprends, le fonctionnaire qui va être obligé de partir, être dans le trafic, arriver au bureau, puis dire « Ah, Steve, je passe ma journée sur Teams quand même.
Ouais.
Je suis pas plus productif au bureau que je serai à la maison. » Ça, je la comprends, cette critique-là. Puis ça, ben, c'est le gouvernement qui l'échappe, là, tout simplement. Là.
Oui, c'est pas un enjeu simple, c'est pas un enjeu noir ou blanc, c'est très complexe, mais en même temps, j'espère que notre économie ne repose pas sur les lunchs que les fonctionnaires prennent sur l'heure du dîner pour faire vivre
Et cela dit, je suis pour le droit de gestion.
Oui,
à 100%.
Exact, mais comme ils ont comme un devoir, c'est le gouvernement là. Ils ont un devoir de faire virer les villes aussi. Tu sais, Guillaume m'écrit, il dit « Yann, si ta business a besoin des bureaux du gouvernement pour vivre, ta business ne tient pas à grand-chose.
Ouais. »
Entièrement d'accord avec Guillaume sur un certain point, mais dans certains commerces, Jean-Saint-Ève, les baux sont signés avec des promesses d'achalandage, avec des pourcentages qui sont associés à ça. Puis je me souviens d'un cas qui est arrivé dans le secteur de Sainte-Foy, juste à côté des anciens cinémas, où on promettait un 10 000 personnes qui allaient franchir les portes de ce restaurant-là, parce que les propriétaires n'étaient pas propriétaires de la bâtisse, ils étaient locataires. Donc, on leur promettait qu'à tous les jours, à tous les mois, excuse-moi, il y allait avoir 10 000 clients qui allaient rentrer dans ces portes-là. Puis il y avait un montant qui était accroché à ça. Puis ils ont signé des baux qui étaient quand même assez élevés. Puis ils n'ont pas eu l'achalandage escompté, ce qui fait que dans le contrat, il y avait des montants qui étaient redonnés à la suite de leur année en raison de l'achalandage qu'il y avait eu dans leur restaurant qui n'était pas assez élevé. Fait que est-ce que le gouvernement s'est embarqué là-dedans? Je ne sais pas, mais ils ont une certaine responsabilité, oui. Mais je comprends votre point, là. Les droitistes.
Non, mais il y a d'excellents textos qui rentrent. Il y a une employée au fédéral qui dit hey, nous autres, il faut rentrer dans un bureau 4 jours par semaine, mais ils ont tous loué le 2e étage. Donc là, ils sont obligés de refaire des rénovations à fort coût pour que tout le monde vienne. T'sais, quand on parle de gouvernement qui ne gère pas bien, un qui dit hey, ça aurait dû être fait dès le retour de la pandémie. Parce que là, le fait qu'on a créé des politiques de télétravail fait en sorte que le monde se l'ont imaginé comme un droit acquis, j'aime beaucoup. Et un autre qui dit, au moins, Doug Ford en Ontario l'a dit que c'était pour faire vivre les villes qui ramenaient tout le monde 5 jours.
Doug Ford l'a dit.
Oui, mais n'oubliez pas aussi que ces personnes-là qui sont en télétravail, si elles veulent aller manger sur l'heure du dîner dans un resto, elles peuvent le faire à partir de la maison et encourager l'économie locale de leur quartier. Donc, peut-être plus en banlieue plutôt que le centre-ville, mais ça fait vivre quand même l'économie. C'est pas vrai que parce que tu es en télétravail, tu restes nécessairement chez toi. Peut-être qu'il y a plus de probabilités, mais il ne faut pas non plus faire cette équation. Ils vont peut-être aller faire une commission à l'épicerie du quartier ou quelque chose comme ça.
Jacinthe Varelle, content d'avoir entendu dans ta chronique que tu avais des couilles tantôt. Écoute, je ne suis pas là pour juger. Tu nous as dit clairement que tu en avais. J'aurais au moins appris ça et plein d'autres choses avec Jacinthe. On se revoit vendredi prochain.
Merci, à la semaine prochaine.
Salut.
Bye-bye. Il est 8h34, on va faire une courte pause. Max, sur la route, comment ça se présente?
T'es encore super beau, Marceau.
L'actualité, présentée par le Croc-Mignon et son offre spéciale.